Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans la JT du local. Nous sommes aujourd'hui le lundi 12 décembre. Je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle émission autour de l'actualité en Mayenne où on va parler aujourd'hui du nouveau livre de Stéphanie Thomas. C'est son troisième. Il s'appelle Dylan, du nom de son personnage principal, et il va vous emmener le long de la Mayenne, mais pas seulement, pour un roman très prenant. Elle va nous en parler aussi, nous parler de sa passion pour l'écriture, qui ne l'a pas quitté finalement depuis son adolescence. On va aussi parler de ce concours mis en place et proposé à plusieurs collégiens et lycéens du département autour de la résistance et de la déportation, avec tout un concours proposé qui peut se faire aussi bien tout seul ou en groupe. On en parlera avec l'une des personnes qui coordonne ce concours au niveau national. Et puis en fin d'émission, ne manquez pas la chronique de la Ligue des droits de l'homme en Mayenne autour de la situation des femmes en Iran, avec notamment plusieurs animations, je ne sais pas si animation est le terme très approprié, mais en tout cas regroupements qui ont été proposés ce week-end en Mayenne autour de ce thème, l'occasion justement d'y revenir si vous n'avez peut-être pas pu y participer, puisque bien sûr tout ça c'est de l'actualité aussi bien internationale que locale. Et justement l'actualité locale, on continue avec l'association Revivre 53 dans le viseur de la Chambre régionale des comptes, association mayennaise qui gère notamment la halte de nuit à Laval et le SAMU social dans le département. Elle a été épinglée pour plusieurs dysfonctionnements, notamment un conflit d'intérêts entre 2017 et 2020, des finances considérées comme fragiles et une gouvernance affaiblie. Elle va fusionner officiellement d'ailleurs le 1er janvier prochain avec l'association Les Deux Rives pour devenir Enosia. Ne jetez plus vos déchets de coquillages. Sur le territoire de Mayenne Communauté, les coquilles de coquillages sont récoltées dans des conteneurs spécifiques dans les 5 déchetteries du territoire pour être ensuite broyées et transformées en compost. Une expérimentation qui se déroule autour des fêtes de fin d'année. Elle commence aujourd'hui et se poursuivra jusqu'au 14 janvier. Plus de 1200 armes à feu abandonnées en Mayenne lors de la grande opération nationale d'abandon simplifié d'armes à feu qui a eu lieu du 25 novembre au 2 décembre dernier. Et selon la préfecture, vous pouvez toujours le faire, abandonner vos armes en gendarmerie ou police en les contactant au préalable ou bien les déclarer en ligne par l'application SIA. Avec aussi dans l'actualité une question, la déconsommation, une mode ou une nécessité? Question qui sera au cœur de l'intervention de Swazik que vous connaissez ici et bien sur l'antenne pour ses chroniques un mercredi sur deux, un autre écho de l'écho. Là elle intervient pour l'Université du Savoir Partagé à Château-Gontier et ce sera demain à 19h dans la salle polyvalente du lycée Victor Hugo, donc à Château-Gontier. Et puis en sport, ce week-end match nul pour les Tangos, un partout contre Quevilly en match amical, match de préparation avant la reprise de la Ligue 2 à la fin du mois. Prochain match, ce sera à l'extérieur ce vendredi contre le FC Nantes. Et puis en futsal, dernière victoire de l'année pour l'Étoile Lavalloise qui s'est très largement imposée 10-2 face à Marcouville samedi. Et après cette 11e journée, les Lavallois restent pour le moment leaders et même invaincus en championnat. S'intéresser à la résistance d'une autre manière, c'est ce que permet ce concours national de la résistance et de la déportation proposé aux lycéens et aux élèves de 3e. En France, il compte près de 40 000 participants. En Mayenne, c'est autour de 300, en individuel ou en groupe, en collectif. Raphaël Bellon est responsable des activités pédagogiques à la Fondation de la Résistance et elle était présente mercredi dernier au lycée Réaumur de Laval pour inciter les élèves, justement, les élèves qui seraient intéressés, à se lancer.
C'est un concours en fait qui est très ancien et qui a été voulu en tous les cas par la Confédération nationale des combattants volontaires de la résistance qui lance en 1955 le prix de la résistance. Du coup, en 1958, Henri Bailly, qui est un ancien combattant et déporté, secrétaire général de cette association, demande la création d'un prix national de la résistance. C'est un prix qui a été ouvert progressivement à d'autres classes, par exemple. On a une nouvelle réforme en 2003 qui vont adapter les épreuves individuelles aux épreuves du baccalauréat et du brevet, avant la réforme de 2016, où là, l'idée, c'était de l'adosser un peu plus au programme scolaire et aussi de l'ouvrir à d'autres publics, comme les élèves des centres pénitentiaires, des centres d'apprentissage ou des centres éducatifs. En fait, c'est un outil pédagogique essentiel déjà en ce qu'il permet un vrai travail d'histoire, souvent sur des archives. Et ça, c'est quelque chose qui est propre au CNRD. Et ça permet aussi de travailler au-delà de l'histoire de la période, certaines compétences historiques, mais aussi plus transversales, hein, que l'élève doit acquérir. Et ça permet aussi de mener une démarche par projet. Le thème de cette année, intitulé un peu long, c'est « L'école et la résistance, des jours sombres au lendemain de la libération 1940-1945 ». Et l'idée, c'est de s'intéresser à la résistance des enseignants, des enseignantes, des élèves et des élèves, des étudiants et des étudiantes aussi, puisque ça inclut l'université. Ça invite forcément à s'intéresser aussi à l'école qui a été celle de Vichy. Et une autre thématique qui est aussi intéressante, c'est la manière dont la résistance a pensé l'école. Cette école, elle a été considérée comme ayant une part de responsabilité dans la défaite. Et du coup, on a des projets scolaires très ambitieux, hein, qui sont pensés à la fois par la résistance extérieure et par la résistance intérieure. Et certaines des idées qui ont été émises ensuite ont une vraie postérité dans les réformes. Par exemple, il y a toute une réflexion qui est menée dans la résistance sur la démocratisation de l'enseignement. Parce qu'il y a eu l'idée que les élites ont failli en 40 et que c'était notamment lié au fait qu'elles n'étaient peut-être pas recrutées sur une base assez large et qu'elles n'avaient pas été correctement formées non plus. On a des réflexions qui parfois semblent d'une brûlante actualité sur le bac, par exemple. Est-ce qu'il faut maintenir le bac en l'état? Est-ce qu'il faut le supprimer? Est-ce qu'il faut mettre du contrôle continu? On a aussi toute une réflexion qui est menée sur la question de la laïcité et de l'enseignement qu'on appelle à l'époque libre, qu'on appellerait aujourd'hui l'enseignement privé. Vous avez les épreuves individuelles où là, ça prend la forme classique d'une copie, même si les sujets peuvent varier d'un département à l'autre. Les travaux collectifs, là, oui, vous avez vraiment... Plein de choses possibles. Donc, il y a des films, par exemple, qui sont faits. Vous avez des livres audio aussi qui sont faits avec souvent de très belles illustrations, des bandes dessinées. Quelque chose qui est très fréquent aussi, c'est des mallettes où les élèves font une valise et déposent des éléments de l'époque voilà, pour donner un aperçu historique. Des bacs pro chaudronnerie, par exemple, qui est fait en métal où ils avaient représenté une voie qui avait déraillé, un wagon de déportation. Souvent, ce qu'on observe, c'est que même s'ils ne sont pas volontaires au début, ça peut être un enseignant qui va décider d'inscrire sa classe. Ils se prennent au jeu, si vous me passez l'expression, et ils s'investissent vraiment dans ce qui leur est proposé. Et souvent, ensuite, quand vous en reparlez avec eux, c'est quelque chose dont ils gardent un excellent souvenir, à la fois pour le travail collectif qui a été mené aussi, mais pour ce qu'ils en ont retiré, en fait, notamment dans leur construction en tant que citoyen.
Et les inscriptions sont possibles encore pendant le mois de janvier, avant les épreuves individuelles et les rendus collectifs fin mars. Les jurys départementaux, académiques et nationaux délibèrent ensuite jusqu'à la remise des prix. Ce sera en automne 2023. On va parler donc de ce nouveau roman de la castro-gontérienne Stéphanie Thomas, juste après avoir écouté Junior avec son titre « Tout, tout simplement ».
Pareil que je change d'avis comme de chemise. C'est jamais tout noir, tout blanc, je vois la vie en grise. C'est un tempérament, je suis de nature indécise. C'est tant de temps, tant d'aventures, je relativise. Je prends le temps de me réserver des cieux.
C'était Junior dans l'agité du local. Vous êtes toujours à l'écoute de l'autre radio, bien sûr. Et c'est le moment de passer à l'interview. Interview, aujourd'hui, on va parler littérature et photo, d'ailleurs, pour commencer. Oui, une photo prise le long du chemin de halage avec la rivière La Mayenne, sous un soleil printanier, donc pas forcément comme en ce moment. Voilà à quoi ressemble la couverture du troisième livre de l'autrice castro-gontérienne Stéphanie Thomas, paru il y a un mois maintenant. L'intrigue de Dylan, c'est le nom de son roman, se passe en grande partie dans le département. L'occasion de reconnaître des endroits familiers et de se plonger dans une histoire émouvante, comme l'explique sa créatrice.
Bonjour, donc je m'appelle Stéphanie Thomas. J'ai écrit plusieurs romans et notamment celui qui s'intitule Dylan, qui est sorti le 4 novembre. J'enseigne aussi l'histoire-géographie dans un collège et un lycée à Château-Gontier, qui est le lycée Saint-Michel. J'habite Château-Gontier depuis 1996, donc ça fait un certain temps, et je m'y suis installée pour le travail. J'étais étudiante à Paris avant et quand je m'y suis installée, j'enseignais au début en Mayenne. Enfin, j'ai enseigné d'abord à Lima, à Cacran, puis à Saint-Michel. Et je suis originaire des Sables-d'Olonne en Vendée. Voilà, c'est ma ville de naissance.
Vous avez donc publié ce troisième ouvrage, Dylan, il y a quelques semaines maintenant, qui est, là aussi, vous avez pas mal parlé de la Mayenne, très directement même ancré en Mayenne, on le voit dès la première de couverture. C'est une photo qui a été prise ici sur le chemin de halage ?
Oui, la photo a été prise au pont de Lavalette, enfin un petit peu en amont du pont de Lavalette. Voilà, la maison d'édition voulait me proposer des photos de rivières, alors j'ai eu droit à l'Amazonie, à tout un tas de rivières, mais voilà, je leur ai dit non, ça se passe sur le halage de la Mayenne, donc il me faut une photo de la Mayenne. Donc voilà, donc là, la dame qui s'occupait de la couverture m'a dit prenez votre propre photo, et c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, sur une couverture d'un jour ensoleillé, au mois d'avril-mai, il me semble.
Donc la Mayenne est là en l'occurrence le chemin de halage qui est le cadre de cette histoire, de ce roman qui porte donc le nom de Dylan, c'est le nom du personnage principal, c'est ça ?
Voilà, on peut dire que c'est un roman éponyme, ça raconte l'histoire de Dylan, donc je me suis quand même interrogée sur le titre quand j'écrivais le roman, de me dire voilà quel titre j'allais donner, et puis ça me semblait un peu évident au fur et à mesure que j'avançais dans l'histoire de donner le titre de Dylan puisque c'est vraiment le personnage du roman. Qui se passe donc à Château-Gontier. Donc Dylan, c'est un adolescent un peu particulier. Il est en terminale, il a 15 ans, il a sauté de classe, il a des problèmes relationnels avec les lycéens de son entourage qui sont pourtant toujours gentils avec lui. Je suis vraiment dans le cadre de Château-Gontier, donc on a affaire à des adolescents plutôt sympathiques, n'est-ce pas ? Qui sont tout à fait gentils avec Dylan, mais il a quelques petits problèmes relationnels, comme je l'expliquais tout à l'heure. Il a été détecté, enfin sans jamais vraiment être détecté parce qu'il est d'un milieu ouvrier, mais il est à haut potentiel. Donc ce qui fait son caractère un peu particulier, solitaire, hypersensible. Et donc ça c'est très mis en avant dans le roman. Donc un vendredi soir il ne rentre pas chez lui. Pour autant ça n'est pas une enquête policière parce que dès les premières pages du roman, Dylan est retrouvé sur les bords de la rivière. Donc les gendarmes le retrouvent aux confins de la Mayenne et de l'Orne. Donc en fait, le roman ne porte pas sur l'enquête sur sa fugue. On voit quand même l'enquête dans la première partie, mais en fait, j'ai fait le roman à l'envers, c'est-à-dire que ça commence par la fin, et au fil du roman, c'est-à-dire au fil de son périple le long du halage, on découvre ce qu'il a fait, pourquoi il est parti, où il était pendant les 48 heures. Donc c'est une espèce de road movie, halage movie à l'envers. Donc en fait, dans la première partie, il est ramené par les gendarmes qui le ramènent en voiture à Château-Gontier. Donc là, en fait, il y a des passages dans la ville de Mayenne, à Laval, puis à Château-Gontier. Donc c'est vraiment ancré en Mayenne, là, on ne peut pas dire autrement.
Pour vous, c'était important que ce soit très vraisemblable et très proche de la réalité ?
Oui, parce que le roman est quand même assez descriptif. Il est assez ancré dans un milieu social. Les parents de Dylan sont ouvriers. Et puis c'est aussi descriptif, le lieu d'habitation par exemple, il habite dans le pavillonnaire, donc dans un lotissement en périphérie de Château-Gontier, avec des parents qui travaillent dur, qui ont du mal à joindre les deux bouts, on peut dire ça comme ça. Ce qui est très important aussi dans l'histoire, c'est que ça se passe sur fond de gilets jaunes, donc c'est en janvier 2018, Après, je fais des petits retours en arrière sur les premiers mouvements de Gilets jaunes en novembre. Donc là, j'ai extrapolé parce que Château-Gontier, il n'y a pas eu de gros mouvements au rond-point. Mais en fait, le père de Dylan, Sébastien, il est très rageux. Enfin, il en veut à tous les riches de la planète. Il déteste Emmanuel Macron. Il a un frère qui est dentiste, qui a bien réussi et lui n'a pas fait d'études. Donc il est vraiment hargneux contre son frère et... Et voilà, donc c'est quand même ancré dans un milieu social et puis géographiquement dans un espace géographique, donc les lotissements pavillonnaires de Château-Gontier.
Qu'est-ce qui vous a inspiré justement pour cette histoire, hormis le cadre dont on a là déjà parlé? Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie d'écrire ce troisième ouvrage?
Alors en fait, c'est le destin de Dylan que je ne peux pas vous révéler là, parce que son destin, on l'apprend dans la deuxième partie. Mais son histoire personnelle, l'histoire de sa mère, pose un problème très actuel qu'on se pose aujourd'hui dans l'actualité. Vous le découvrirez parce que c'est quand même une question. Voilà, pour moi, chaque roman amène un problème. J'ai pas la prétention de donner les solutions, mais en tout cas, ça pose un problème. Et après, c'est une vision des choses sur ce problème-là, que je ne vous dévoile pas, mais bon, c'est l'histoire de Dylan, son destin qui est très particulier. Et donc, j'ai toujours été interpellée par ce problème-là. Ça s'est concrétisé au fur et à mesure que j'écrivais, l'histoire est venue.
Je le disais, c'est donc le troisième ouvrage, la publication d'ailleurs d'un premier roman en 2018. Qu'est-ce qui vous a incité pour le coup à vraiment vous dire « là, j'ai envie d'écrire et d'être publié » parce que peut-être que vous écriviez depuis longtemps déjà.
Alors bah effectivement, bon, comme tous les gens qui écrivent, je pense que ça commence par la lecture déjà. Depuis que je suis toute petite, après je vais pas vous raconter toute mon histoire, elle n'est pas intéressante, mais depuis que je suis toute petite, j'ai beaucoup lu les classiques quand j'étais au lycée, puis après d'autres romans plus contemporains. Et puis j'ai commencé à penser à l'écriture, quand j'avais peut-être 20, 25 ans. Mais ce que je lisais était tellement bien, en fait, que je me disais, c'est impossible de faire aussi bien, donc lis plutôt les choses des autres, et pourquoi essayer de faire aussi bien que des écrivains que j'admirais, en fait. Donc je remballais un peu tout ça en me disant, voilà, ça m'est arrivé d'écrire des nouvelles que j'ai laissées dans un tiroir, je les relisais, je les détruisais, j'en faisais un peu d'autres. Et puis voilà, en fait, parce que j'avais peur, je pense que c'est ça, tout simplement, peur de ne pas y arriver, peur... de me dire, tiens, qui elle est celle-ci pour oser publier, enfin essayer de publier, peur peut-être de me dévoiler aussi, de dire, parce que c'est, on met de soi bien sûr, même si mes romans ne sont pas autobiographiques en soi, mais on met de soi dans tout le roman, de découvrir ce que je pensais aussi. Je pense que quand on écrit, c'est en écrivant qu'on découvre un peu ce qu'on pense. Peur d'être prétentieuse, ça je le disais tout à l'heure, j'ai toujours eu un peu la syndrome de l'imposteur, de dire non mais ça va pas, quoi, n'importe quoi. Peur de ne pas y arriver aussi en faisant, que ça soit sec, et de me dire c'est un échec. De laisser un peu de côté ma famille aussi, parce que quand on a 30 ans, qu'on a des enfants petits, ça fait longtemps que je n'ai plus 30 ans, mais le temps a passé vite en fait. De se dire, voilà, c'est aussi se détourner des siens, de s'enfermer. C'est toujours enfermant, l'écriture. Il faut du temps, il faut de la pugnacité, il faut vraiment s'y tenir. Donc voilà, à chaque fois, je repoussais au calende grec en me disant, tu n'arriveras pas, ou tu vas commencer, ça se terminera jamais, donc à quoi bon? Et puis en 2019, je me suis dit, allez, vas-y, arrête de trouver des excuses. Puis ça s'est un peu imposé à moi, en fait. Il y a eu un moment où j'avais trop envie, je me disais, allez, on essaie, et si ça marche pas, qu'est-ce que tu as à perdre? Je l'avais dit à personne, en fait, au début. Donc c'est un peu comme ça que ça s'est fait. Et puis après, j'en ai fait un, ma foi, ça s'est fait.
Qu'est-ce que ça a fait, justement, si ça faisait, c'est le cas de le dire, des dizaines d'années que vous y pensiez, lorsque vous avez eu votre premier livre publié entre les mains?
J'étais très contente, ça c'est sûr, contente d'avoir fini... d'avoir trouvé un éditeur, et puis contente d'être lue surtout. Parce que voilà, si on écrit à un moment, c'est forcément pour être lue. À part si on fait un journal intime, mais ça, j'ai jamais fait vraiment, moi, le carnet secret des filles, là, j'ai jamais fait vraiment ça. Enfin, des filles ou des gars d'ailleurs, mais bon. Et puis aussi, toujours la peur, est-ce que les gens qui le liront vont bien l'aimer? Est-ce que des gens vont s'intéresser au livre, sachant que quand on n'a pas de nom, enfin j'en ai toujours pas, hein, mais je veux dire que maintenant la littérature, elle est quand même recentrée sur quelques têtes d'affiche qui vendent de toute façon beaucoup de livres. Et après, c'est difficile de se frayer un chemin, de trouver sa place dans cette littérature qui est quand même très formatée à l'avance, enfin...
Comment vous avez fait justement, vous disiez, avoir eu, être contente en tout cas d'avoir trouvé un éditeur? J'imagine que ça aussi, ça fait partie des questions importantes qu'on se pose lorsqu'on a cette envie d'être publié.
Bien sûr, et puis quand on ne connaît pas ce milieu, parce que moi je ne connaissais pas le milieu de l'édition du tout, j'avais commencé par acheter le magazine Lire, que vous connaissez je pense, avec un numéro spécial, comment se faire éditer? Donc bonne question, donc on prend les pages pas à pas, comment il faut faire, après il y a internet évidemment, comment est-ce qu'on présente le livre à la maison d'édition, sachant qu'avec il faut fournir une lettre de présentation, qu'est-ce qu'on met là-dedans pour pas être trop neuneux, pour pas passer à la poubelle directement, parce que parfois c'est très vite la simple lettre de présentation, si elle est mauvaise ou banal ou sans intérêt, ben le livre n'est pas lu. Enfin, après, c'est assez opaque, on ne sait jamais vraiment si les livres sont lus. Généralement, la non-réponse vaut pour un refus. Dans les maisons d'édition, il y a aussi des maisons d'édition plus nouvelles. Par exemple, Hello Édition, c'est une maison qui a été créée en 2018, au moment du confinement. Et au sortir du confinement, bah là, ils renaissent un peu, justement, c'est tout nouveau. Donc là, on a plus d'opportunités si on n'a pas publié avant. Enfin, moi, j'en avais déjà fait deux avant, mais ils peuvent prendre plus de nouveaux auteurs et donner leur chance aussi à des auteurs qui sortent d'on ne sait où.
Qu'est-ce que ça vous apporte, justement, puisque, comme vous le disiez, l'objectif, c'est pas forcément d'en vivre, en tout cas... Mais pour le coup, on sent que ça prend une part importante de votre vie depuis très longtemps. Là, peut-être encore plus avec la concrétisation et ces trois livres publiés. Qu'est-ce que ça représente pour vous dans votre vie? C'est une grande question. Hein, mais...
C'est une très grande question. Bon, premièrement, je dirais qu'il faut bien aimer ça. Je pense que si on fait ça, c'est qu'on aime bien écrire, l'enfermement dans le bureau, un peu la solitude aussi, parce que c'est quand même solitaire, quand même, l'écriture. Se dire qu'on est... Tout est possible face à la feuille... comment vous dire ça, mesurer sa chance de vivre dans un pays où on peut dire ce qu'on veut, écrire ce qu'on veut, et ça, parfois, on l'oublie, et je trouve qu'en écrivant, on ne l'oublie pas, puisqu'en écrivant un roman, enfin, pour moi, écrire un roman, c'est quand même dire un peu le monde, la société, pas mon avis qui n'a pas d'intérêt en soi, mais un éclairage sur la société, enfin, c'est un éclairage parmi d'autres, qui n'a pas plus de valeur que les autres, ni plus ni moins, mais c'est une façon de dire la société, de dire ce qu'on pense en fait, ou ce qu'on découvre qu'on pense, comme je disais tout à l'heure, on découvre qu'on le pense. Après, on essaye de faire quelque chose de beau, je crois qu'il y a une visée esthétique, que dans l'écriture, bah, il faut aussi qu'on essaye de faire des phrases qui sonnent un peu, qui soient équilibrées, qu'il y ait une musicalité dans la phrase, dans les mots. Je peux vous lire un petit extrait qui se passe à la gendarmerie, parce qu'en fait, lorsque les parents s'aperçoivent que Dylan n'est pas rentré, à 18h le vendredi soir, il n'est pas rentré, la mère est dans une grande panique, évidemment, hein, ça on peut imaginer, c'est très, tout à fait normal, d'autant plus qu'elle est Dylan est né le jour de la disparition de la petite Estelle Mouzin, le 8 janvier 2003. Donc la mère, depuis qu'elle a ses enfants, elle en a trois, je ne vous ai pas parlé des frères et sœurs, mais il y a une fratrie, et donc elle est obsédée par les psychopathes en estafette blanche, elle voit des Nordal-Lelandais partout, même si Château-Gontier est une ville paisible, elle est complètement paniquée. Donc le père essaye de temporiser, de toute façon, t'es toujours hystérique avec ton gamin, enfin, bon. Et ils partent à la gendarmerie pour déclarer, bien sûr, la disparition de Dylan. La gendarmerie ressemblait à un village Lego. Les maisonnettes, colorées et tirées au cordeau, étaient regroupées en deux catégories. Celles à étage, pour les gradés et leurs familles, formaient un premier lot peu étendu, mais dont les jardins tranquilles donnaient sur les champs. Alors que celles de plein pied, qui étaient plus nombreuses et plus petites encore, abritaient les 100 grades et venaient buter contre la départementale. À part l'étage, une excroissance maigrelette qui les différenciait, elles étaient toutes identiques, modestes, de construction récente et surtout proches les unes des autres. Odile, qui avait le sens de l'observation, constata, étonnée, que même les pots sur les terrasses étaient semblables. Sébastien gara la voiture sans difficulté devant le bunker. Odile s'annonça tremblante à l'interphone et aussitôt un portier invisible déverrouilla l'entrée. Ils pénétrèrent à pied dans le bâtiment principal. D'un rouge brique foncé assorti au crépi des maisons, la bâtisse qui n'était pas construite dans le style du pays lui rappela leur séjour sur la côte du Languedoc au mois d'août.
Not in my name, the Butt Shakers, c'est ce que vous venez d'écouter dans l'agité du local, toujours sur l'autre radio. Et Stéphanie Thomas, que vous avez entendu juste avant la musique, sera donc en dédicace pour son livre Dylan, notamment au mois de mai, à Livre en fête, ce sera à Saint-Denis d'Anjou. On passe à cette nouvelle chronique de l'antenne mayonnaise de la Ligue des droits de l'homme, qui revient sur l'actualité de ce week-end, à la fois locale et internationale. Bonjour Alain Vignier.
Bonjour.
Nouvelle chronique de la Ligue des droits de l'homme en Mayenne. Ligue des droits de l'homme en Mayenne qui vient de co-animer à Laval un week-end de solidarité avec la lutte du peuple iranien pour les droits des femmes et la liberté. Organisé donc conjointement avec Femmes Solidaires, la Gomme 53 et avec le Théâtre du Tiroir. Pourquoi cette initiative et surtout pourquoi maintenant ?
Nous l'avons fait à la demande de femmes iraniennes et elles n'ont pas eu besoin de nous prier bien longtemps. Les tensions, les crises, les guerres ne manquent pas, me direz-vous. La révolte des Iraniens et des Iraniens, cependant, est en train de devenir une révolution, c'est-à-dire un combat qui devient le fait de la société tout entière, dans sa diversité, pour la fin du régime de cet État islamique qui a usurpé le titre de République, comme le clament les manifestants eux-mêmes. Aujourd'hui, et après les abominables exécutions capitales de ces derniers jours, qui viennent d'être appliquées au mépris de toutes les règles les plus élémentaires en matière de justice et de respect de la vie, L'Iran représente, pour les défenseurs des droits et des libertés que nous nous efforçons d'être en tant que militants de la Ligue des droits de l'homme, une situation dont il nous semble indispensable que nous prenions bien la mesure et que nous la fassions partager. Son enjeu est fondamental pour nos propres vies, pour notre propre avenir. C'est un enjeu mondial.
Et vous ne pensez pas que ça peut sembler un peu excessif pour nos auditeurs ?
La répression actuelle en Iran, voilà ce qui est excessif. Pourquoi un enjeu mondial et aux dimensions universelles en matière de valeurs ? Eh bien écoutez, le mouvement a été au départ en Iran essentiellement un mouvement des femmes contre l'obligation du port du tchador, obligation qui conduit au meurtre, ce qui a été le cas pour Jina Mahsa Amini à Téhéran le 16 septembre, point de départ des manifestations actuelles qui ne s'interrompent pas. Cette protestation des femmes portées au risque de leur vie dans la rue n'est pas nouvelle. À peine l'imam Khomeini était-il revenu d'exil en février 1979, les femmes, qui avaient été très souvent en première ligne dans les manifestations qui ont abouti à la chute du Shah, se sont vues imposer brutalement cette obligation et plus généralement invisibilisation et silence dans l'espace public pour ne pas exciter sexuellement les hommes, nous le tenons des propres paroles, des ayatollahs et autres mollahs. Dans toute société patriarcale, c'est-à-dire dans toutes nos sociétés, plus ou moins, l'élément qui est fondamentalement par rapport à ce patriarcat le plus subversif, ce sont bien évidemment les femmes. Dès leur première manifestation contre l'obligation du port du voile, en mars 1979, les femmes le proclamaient. Sans les femmes, il n'y a pas de révolution, il n'y a pas de république, il n'y a pas d'égalité. Voilà ce que le message des femmes iraniennes et des manifestants iraniens a d'universel. Voilà en quoi ce message et ce qui se passe actuellement dans les rues de la plupart des villes de plus ou moins grande importance en Iran interpellent tous les peuples de la Terre.
C'est donc une revendication très ancienne. Qu'y aurait-il de différent aujourd'hui, finalement ?
C'est la question sur laquelle nous sommes tous mobilisés et appelés à rester extrêmement attentifs. 43 ans plus tard, 1979-2022, et après bien des épisodes insurrectionnels noyés dans le sang, les femmes iraniennes et les hommes de plus en plus nombreux qui combattent à leur côté sont désormais convaincus de n'obtenir aucune amélioration en matière de droits des femmes, de liberté, d'égalité et de justice sociale dans le cadre du régime. Ils y ont pensé à l'époque de 2009, par exemple, quand il y a eu le soulèvement dit « vert », de la couleur verte, des insurgés, contre le fait que l'élection présidentielle de Mossavi leur avait été volée par un trucage qui avait abouti à la réélection d'Ahmadinejad. Pire, par rapport à ce qu'on ne peut pas attendre du régime, des dispositions nouvelles et encore plus contraignantes contre les droits et libertés des femmes viennent d'être prises ces derniers jours, comme l'abaissement à 13 ans de l'âge auquel les filles peuvent être mariées, par exemple. Elles, les manifestantes, et ils, les hommes qui manifestent avec elles, veulent maintenant clairement la sortie de l'islam politique et la séparation du religieux d'avec le politique. Relayer leurs paroles, c'est la demande instante qui nous était faite. Et nous ne pouvions pas ne pas donner suite à cette demande. C'est le sens fondamental de notre rassemblement de samedi devant l'hôtel de ville de Laval. C'est le message très clair que nous ont fait partager hier les deux représentantes d'associations de femmes iraniennes en France qui étaient avec nous et avec le public au théâtre du Tiroir.
Et maintenant alors ?
Bah écoutez, par rapport à la manifestation de samedi, on doit d'abord constater, et en les remerciant, que le maire et un certain nombre d'adjoints étaient présents. Mais globalement, que ce soit pour samedi ou dimanche, l'honnêteté nous conduit à reconnaître que nous n'avons pas fait courir les foules. Il n'empêche que le message que nous avons voulu porter, et que je viens d'essayer de récapituler en quelques mots, il garde bien évidemment toute sa force et toute sa valeur. Donc nous n'écartons pas l'idée de reprendre, je dirais, ce relais de la parole des manifestantes et des manifestants, des Iraniennes et des Iraniens, sous d'autres formes.
Merci Alain Vignier, on retrouvera désormais la chronique de la Ligue des Droits de l'Homme au mois de janvier prochain. Puisque ça y est, c'est la fin de notre émission L'AJT du local pour ce lundi. Restez sur l'autre radio bien sûr, puisqu'à 19h il y aura Solénoïde. Ce sera suivi à 20h de la discothèque du programmateur. Et oui, une heure spécialement concoctée encore plus par notre programmateur. Nous, on se retrouve demain à 12h15. Je vous souhaite une très belle journée.